Permettez-moi d'interrompre cet épisode 60 secondes. J'ai un message important pour vous. Atteindre 10 000 euros de revenus mensuels stables et prédictibles, même si vous démarrez de zéro, cela vous semble impossible ? Bonne nouvelle ! Du 30 avril au 5 mai, nous organisons le plus grand événement en ligne francophone de l'année pour les entrepreneurs. Le challenge entrepreneurs.com. 100% gratuit, 5 jours intensifs pour propulser votre business. Chaque jour, vous aurez accès à des sessions live exclusives avec des experts de renom. Ce n'est pas juste un événement en ligne, c'est une chance de faire un vrai changement grâce à des conseils et des méthodes prouvées. C'est une opportunité d'échanger en live avec mon équipe et moi pour faire avancer votre projet. C'est la garantie d'évoluer et de progresser dans un environnement sain et profiter d'une communauté unique. Je vous invite maintenant à réserver votre place. Pour en savoir plus et vous inscrire gratuitement, consultez notre site podcastledeclic.fr ou cliquez sur le lien dans notre bio Instagram. Merci pour votre confiance et maintenant, place à notre épisode du jour.
J'ai mon objectif, je sais pourquoi je fais ça et j'avance et je continue à avancer. Et au lieu d'aller dépenser bêtement ou faire autre chose, non, je me dis, Mohamed, t'as un objectif, c'est permettre aux salariés et aux étudiants de se libérer intellectuellement et libérer leur plein potentiel pour devenir ce qu'ils veulent vraiment, tout simplement changer des vies. Voilà, ça c'est ma mission. Et donc tous les jours, je me dis, voilà, Mohamed, tu dois changer des vies et continue comme ça. La peur a tué plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait.
Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Aujourd'hui, j'ai plaisir à accueillir Mohamed Boclay, qui est vice-champion du monde de lecture rapide, triple champion de France de mind mapping, qui aujourd'hui est conférencier et formateur, impacte des centaines de personnes, des milliers de personnes. On entend beaucoup parler de toi, Mohamed. En plus, ce qui est intéressant, c'est que je te connais depuis tes débuts, l'époque où tu étais encore, sauf erreur, ingénieur chez EDF et tu démarrais dans l'entrepreneuriat. Et depuis aujourd'hui, beaucoup de choses se sont passées, même si ça s'est passé très vite. Donc, merci de m'accorder un petit peu de ton temps. Merci d'être là. Est-ce que, Mohamed, déjà, est-ce que tu vas bien ? Et puis ensuite, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore en une simple phrase ?
Donc bonjour Alec, merci pour l'invitation, ça me fait énormément plaisir d'être là. Effectivement, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, tu faisais partie des personnes que je regardais en story, que je suivais, et ensuite on s'est rencontrés dans différents événements, et aujourd'hui voilà, je prends énormément de plaisir d'être avec toi pour ce podcast et permettre aussi à des personnes de me découvrir et découvrir mon parcours. Donc, me présenter en une seule phrase, je suis formateur et conférencier en technique d'apprentissage. Aujourd'hui, j'apprends à apprendre à un maximum de personnes et je démocratise les techniques d'apprentissage parce que tout simplement, on ne nous a jamais appris à apprendre. On passe notre vie à apprendre, mais on ne s'est jamais arrêté pour nous expliquer comment faire pour apprendre. Et c'est ça que j'enseigne aujourd'hui autour de moi.
C'est extrêmement intéressant. Je pense que vraiment cet épisode va vous apprendre du coup énormément de choses, vous partager différents déclics. J'ai beaucoup de questions à te poser parce que aussi je te connais bien et je sais que tu es quelqu'un de super intéressant mais aussi super inspirant dans son parcours. Merci donc d'avoir accepté cette invitation, et ce au nom de toutes les personnes qui nous écoutent. Tu parles d'apprentissage et tu fais référence au fait que oui, on apprend durant toute notre existence, et même si certains peut-être arrête d'apprendre un petit peu trop tôt ou n'ont pas cette volonté comme tu peux l'avoir et la transmettre, finalement on apprend quand même beaucoup de choses au fur et à mesure des expériences de la vie et autres. Mais par exemple, à l'école, on nous a effectivement jamais appris à apprendre. Qu'est-ce qui fait selon toi du coup qu'on nous ait jamais appris à apprendre?
C'est une très bonne question, au sens où déjà on a l'impression que l'école a le monopole de l'apprentissage, alors que c'est complètement faux. Parce que on commence réellement à apprendre, on passe après 15 ans de notre vie à l'école, de 3 ans à 18 ans pour une personne lambda, et après ceux qui continuent, aujourd'hui on est plus à 18 ans en moyenne d'école, et on apprend réellement après l'école. Toute notre vie, on est en train d'apprendre. Moi, l'entrepreneuriat, je l'ai pas appris à l'école. Effectivement, l'école, c'est une grosse machine, et quand tu regardes l'enseignement, quand on a commencé l'enseignement au début, c'était pour permettre aux personnes de lire, d'écrire, et surtout permettre aux notables de donner des ordres et de se faire comprendre lorsqu'on a donné des ordres à nos employés, que les personnes puissent lire les consignes. Ce qui s'est passé, c'est que l'éducation qu'on a eue et la méthode d'apprentissage qu'on avait en 1900, c'est les mêmes qu'on a aujourd'hui. Quand tu prends l'image d'une classe dans les années 1900 et une image d'une classe aujourd'hui, c'est la même chose. alors que le monde a complètement changé. Et à l'époque, on nous apprenait les mathématiques, le français, apprendre à lire, parce que la personne, elle pouvait comme ça lire les documents, lire les informations importantes. Mais aujourd'hui, ça, c'est, on est jamais parti dans l'ingénierie pédagogique. Essayer de comprendre comment on apprenait et aussi s'adapter aux découvertes de neurosciences, parce que pendant longtemps, on n'allait pas regarder comment le cerveau fonctionne. Et aujourd'hui, il y a énormément d'études en neurosciences qui montrent comment le cerveau fonctionne et comment on apprend. Et pour moi, il faudrait faire un reset et venir et dire, voilà, on reprend l'école et on commence, la première chose qu'on enseigne à nos élèves, c'est apprendre à apprendre. Parce que c'est la compétence dont ils vont avoir besoin pendant leurs 15 ans d'études, et au minimum, et qu'ils vont avoir besoin toute leur vie.
Effectivement, et c'est super intéressant. Et là, tout de suite, du coup, ne serait-ce que là, en quelques minutes, tu fais prendre conscience de différentes choses. Ce niveau d'éveil et ce niveau d'ouverture d'esprit à l'égard de l'apprentissage, est-ce que tu l'as toujours eu ou est-ce que c'est quelque chose qui est apparu récemment dans ta vie?
Alors non, je ne l'ai pas toujours eu. Moi, un peu comme tout le monde, hein. Je suis allé à l'école, j'ai suivi le système éducatif normal où pour apprendre, je passais mes journées à la bibliothèque. Et moi, comme j'avais énormément de difficultés, j'ai redoublé à plusieurs reprises. Je devais aller en SECPA quand j'étais jeune. J'ai appris à lire très tard parce que j'avais du mal à l'école. Donc, j'ai appris à lire. Je devais avoir 9-10 ans. Je passais mes mercredis à l'orthophoniste, le samedi également, le soir à l'aide de devoirs parce que je partais de très, très loin. Et pour répondre à ta question, j'ai découvert toutes ces méthodes il y a à peu près 4 ans. Et c'est vraiment au hasard, en m'intéressant un peu au développement personnel, à apprendre comment je fonctionnais et surtout, je m'étais rendu compte que je n'étais pas épanoui dans ma vie et que j'avais besoin de voir autre chose. Et en commençant à m'intéresser à plein de thématiques différentes, je suis tombé sur la lecture rapide, ou du moins ma femme m'a inscrit un jour à un atelier de lecture rapide. Et en allant à cet atelier et en écoutant les personnes qui étaient là et qui m'ont inspiré, je me suis rendu compte qu'en vrai, pendant 29 ans, je pensais que j'étais bête. Je pensais que j'étais pas intelligent, je pensais que le problème venait de moi, alors que c'était complètement faux. C'était que tout simplement, j'avais jamais appris à apprendre. Et j'avais jamais pris le temps de comprendre comment mon cerveau fonctionnait. Et que en soi, j'étais pas bête, il fallait juste que j'utilise les outils en adéquation avec qui je suis. Et c'est comme ça que j'ai découvert aussi les intelligences multiples. Parce qu'il y a 9 types d'intelligence. Surtout, on s'arrête aujourd'hui sur le fait, t'es bon en langue, t'es bon à l'oral, t'es bon en mathématiques, donc t'es scientifique, t'es bon en langue, t'es verbolinguistique. Mais il y a 9 types d'intelligence. Et aujourd'hui, on est tous intelligents parce que l'intelligence, c'est une capacité humaine. Et malheureusement, les gens l'oublient. Les gens se comparent aux autres, on voit que certains sont bons, et on dit, lui, il est intelligent, moi, je suis bête. Alors que non, on est tous intelligents. Juste différemment.
C'est super intéressant et tu vois typiquement ces 9 types d'intelligence, j'en ai pas forcément connaissance. Est-ce que tu peux nous les évoquer pour celles et ceux qui, comme moi, découvrent ce concept?
Alors, on a Howard Gardner, qui est un psychologue américain qui a développé la théorie des intelligences multiples. Donc, il y a l'intelligence verbo-linguistique, logico-mathématique. Ces deux-là, on les connaît très bien. C'est celles qu'on enseigne à l'école. C'est celles aussi qui sont plébiscitées dans les entreprises où on va venir dire « Ah, t'es bon en langue, t'es bon à l'oral. Donc, on va donner certains types de responsabilités. T'es bon en sciences, t'es très carré, rigoureux. On va donner d'autres types de responsabilités. » C'est ce qui est plébiscité vraiment à l'école et dans les entreprises. Mais on a l'intelligence visio-spatiale. On a l'intelligence kinesthésique, l'intelligence musicale, l'intelligence intrapersonnelle, interpersonnel, naturaliste et existentiel. Est-ce que tu veux que je développe chacune des intelligences un tout petit peu ou on a assez de temps pour le faire ou pas?
Je pense que ça peut valoir le coup de les développer très rapidement, oui.
Alors, l'intelligence visio-spatiale, c'est l'intelligence de l'espace. Tu vas voir, un architecte, il a une intelligence visio-spatiale. Un artisan a l'intelligence visio-spatiale. Tu le mets à un endroit, il arrive à se projeter. Tu prends un architecte d'intérieur, il vient, il va te dire, là, tu vas pouvoir mettre telle armoire, tu casses ce mur, tu vas pouvoir faire telle ou telle chose. Les personnes qui sont dans le dessin informatique, un vidéaste, il a l'intelligence visio-spatiale. Il arrive à se projeter et à faire ses plans mentaux. Et tu vas le mettre à un endroit, tu sais qu'il va retrouver son chemin facilement. Il arrive à se retrouver dans l'espace. Et souvent, les gens qui ont cette intelligence utilisent également les images, les dessins, la couleur pour l'apprentissage. L'intelligence kinesthésique, c'est l'intelligence du corps. Tu vas prendre un horloger qui doit avoir une intelligence du corps, de la main. Un chirurgien a l'intelligence kinesthésique, comme également un sportif ou un musicien qui vont pouvoir faire des choses incroyables avec leur corps que nous, on va pas pouvoir faire. Parce que ils utilisent leur corps d'une manière qui est innée. C'est l'intelligence kinesthésique. Bien sûr, toutes ces intelligences se développent. L'intelligence musicale, je peux pas dire que Mozart n'est pas intelligent. Et est-ce qu'on peut dire que Mozart, il est pas... Bien sûr qu'il est intelligent, mais il a l'intelligence musicale. Des personnes, tu leur mets de la musique, ils vont chantonner facilement, ils vont retrouver les rythmes, tu vas les mettre dans un endroit, rapidement, ils vont se dire, ah ben cette musique, c'est... Ils vont entendre une mélodie, ils vont dire, ah ben c'est telle musique. Et ces personnes vont utiliser la musicalité dans leur apprentissage. Les enfants, en maternelle, on travaille beaucoup sur l'intelligence musicale et kinesthésique. On leur fait beaucoup chanter, travailler sur ça, beaucoup de kinesthésique, de mouvement. Et dès qu'on les met en CP, on arrête tout ça. Et donc, il n'y a plus de jeu, du moins, il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. On les bombarde de logico-mathématiques et de verbo-linguistiques. Ensuite, on a l'intelligence intrapersonnelle. L'intelligence intrapersonnelle, c'est des personnes qui vont se connaître, qui vont être dans l'émotion, dans la réflexion, dans la motivation, l'autonomie, la maîtrise de soi. C'est des personnes, souvent, on va dire, qui sont, sont introverties alors que non. T'as des personnes qui ont besoin pour prendre des bonnes décisions, pour mémoriser, d'être seules dans leur coin, de travailler sur eux-mêmes, d'avoir des objectifs clairs, des objectifs smart. Et c'est ça qui va leur permettre d'avancer. Il y a également l'intelligence interpersonnelle. Donc là, on est plus sur des personnes qui vont avoir la capacité d'être sensibles aux réactions des autres, qui vont être dans l'empathie, la tolérance. Les managers, un manager doit avoir une intelligence interpersonnelle développée, être en capacité de se synchroniser à l'autre, comprendre l'autre, se mettre à sa place. Les personnes qui ont cette intelligence, moi, je leur préconise de travailler en groupe. Quand tu es entrepreneur, si tu as une intelligence interpersonnelle, reste pas seul. Va dans des masterminds, va dans des formations, côtoie des entrepreneurs pour interagir et également partager tes connaissances et ton savoir. Il y a l'intelligence naturaliste. Naturaliste, souvent, on associe ça là, donc à la nature, les gens qui sont sensibles aux caractéristiques de l'environnement, de la nature, qui aiment également les animaux. Tu n'es pas obligé d'avoir des animaux, hein, mais ces personnes qui aiment les animaux, qui sont bien beaucoup dans le circuit court, la nourriture bio, le corps, faire attention aux aliments qu'ils vont manger. Les personnes qui ont ce type d'intelligence, tu as des personnes, tu les mets dans la nature, tu vas te rendre compte qu'ils sont dans leur environnement. Ils ont besoin même d'être dans la nature pour apprendre. Tu peux... Moi, j'ai des personnes, des élèves qui ont une intelligence naturaliste, ils aiment la nature, mais ils n'utilisent pas cette force. Je leur dis, bah, allez dehors, au lieu d'apprendre chez vous, porte fermée, seul, bah, sortez, allez dans un jardin, posez-vous, ou allez devant la mer, dans la montagne, et allez travailler là-bas, réviser là-bas, allez développer votre projet entrepreneurial là-bas. Et tu vas voir que des idées vont arriver sans t'en rendre compte, parce que tu es dans ton élément. Et tu as l'intelligence existentielle, c'est la 9e intelligence, c'est l'intelligence de l'interrogation. Ça veut dire quoi? C'est des personnes qui se posent énormément de questions et qui sont dans une quête de sens. Comprendre pourquoi ils font les choses. Est-ce que tu es sur Terre pour être un ajout ou un apport à la société? Est-ce que tu apportes quelque chose ou tu es juste une personne supplémentaire? Et quand tu as des salariés qui ont une intelligence existentielle, tu te rends compte que quand tu leur donnes une action et que tu ne leur dis pas pourquoi ils font l'action, ben ils ont du mal à la faire. C'est des personnes à qui tu dois toujours donner le sens, leur expliquer en quoi leur tâche, en quoi ce qu'ils font a un apport dans la globalité, dans le groupe. Et donc, quand tu es étudiant et que tu as l'intelligence existentielle, il va falloir poser beaucoup de questions, comprendre pourquoi tu es en train d'apprendre ça. Toutes les choses abstraites, il va falloir les rendre concrètes pour que tu puisses les mémoriser. Sinon, tu bloques. Voilà. Donc ça, c'est les 9 types avec le verbo-linguistique et logico-mathématique qui sont les deux premières. C'est 9 types d'intelligence et on a tous, à minima, 3 types d'intelligence prédominante. On en a tous 3 et on peut tous développer toutes les autres intelligences. Mais on en a de nature. Si tu analyses les gens autour de toi, tu vas dire, ah ouais, lui, il se voit, il est très interpersonnel, lui, il est très intra. Lui, il est beaucoup dans le kinesthésique. Donc, tu analyses quand tu vois ça. Et en tant qu'entrepreneur ou en tant que manager, le fait de connaître ça sur tes équipes, ça permet aussi de donner des bonnes missions. Tu vas pouvoir adapter les missions en fonction des caractéristiques des personnes qui sont dans ton équipe.
Totalement, totalement. C'est très intéressant. C'est très intéressant ce que tu évoques. Alors, j'avais entendu parler de ce concept, mais je ne le maîtrisais pas. Et c'est vrai que j'imagine que même toi, tu as dû voir un changement, notamment en tant que nouveau manager, nouveau entrepreneur, lorsque tu dois justement donner des différentes tâches, différentes choses à exécuter. Ça fait la différence, mais surtout, je pense, pour soi-même. Parce qu'on dit, on dit aussi qu'il faut absolument se connaître soi-même pour pouvoir tout simplement s'améliorer, aller chercher, atteindre ses objectifs et améliorer notre capacité globale à pouvoir atteindre globalement la vie qu'on désire avoir. Et ça fait vraiment, vraiment du sens. Donc déjà, merci pour ça. Et le premier point que je soulignerais, et tu l'as évoqué, c'est justement d'utiliser ses forces. Mais pour utiliser ses forces, faut-il encore, du coup, les comprendre et les connaître, ou les connaître et les comprendre. Donc, tout à fait.
Ce qui se passe, c'est qu'on passe beaucoup de temps sur nos défauts. On va passer beaucoup de temps à travailler nos défauts ou les choses pour lesquelles on n'est pas bon. Mais des fois, on peut atteindre notre objectif en utilisant nos forces. Alors que, exemple, tu es dans l'apprentissage, tu as envie d'atteindre tel niveau ou apprendre une langue étrangère, et toi, tu vas faire le bourrin, tu vas répéter, alors que tu peux utiliser une force, une de tes forces, exemple, peut-être l'intelligence musicale, et utiliser la musicalité pour apprendre la langue étrangère. Alors qu'avant, tu étais dans un fonctionnement où tu disais, je suis nul en langue, et je vais faire comme j'ai toujours fait, répéter. Et dans plein d'objectifs, dans plein de choses de notre vie, on peut utiliser nos forces, nos intelligences, notre fonctionnement, et voir comment mon mode de fonctionnement me permet d'atteindre mon objectif. Bien sûr, sans se dire, je ne travaillerai jamais les restes. Bien sûr, c'est-à-dire que tu peux travailler les autres intelligences, il faut le faire, mais déjà, la première chose, utilise tes forces avant d'aller chercher à travailler le reste.
Ouais, tout à fait. Je vois exactement ce que tu veux dire. Et justement, il y a dans une interview que tu as fait pour Combini, sauf erreur, où tu expliques justement ton parcours et la réflexion qui s'est opérée quand ta femme t'a mené justement voir un atelier de lecture rapide, que tu t'es rendu compte qu'il était possible d'accéder à de la connaissance facilement et rapidement. C'est là que tu as découvert, sauf erreur, la lecture rapide, et que tu n'étais pas initialement un grand lecteur. Moi, c'est mon cas, je ne suis pas un grand lecteur. J'ai lu quelques bouquins au départ dans l'entrepreneuriat, mais je ne suis pas un bon lecteur. Et à chaque fois, j'ai cette pression de me dire « Ah, mais franchement, parce que je sais que dans les livres, c'est inestimable la valeur qu'il y a, mais je suis plus quelqu'un qui va apprécier écouter des podcasts, regarder une vidéo, ou même encore, plutôt surtout, échanger avec différentes personnes, comme je le fais ici avec toi. C'est aussi pour ça que j'ai fait beaucoup de séminaires, j'ai organisé des masterminds, je collabore avec beaucoup d'entrepreneurs, j'ai pas mal d'associés, parce que justement, c'est une de mes intelligences et j'aime ça. Mais qu'est-ce que tu dirais à un individu qui peut-être nous écoute et qui, comme moi aujourd'hui, comme toi à l'époque, n'est pas forcément un grand lecteur, a envie de s'y mettre, parce qu'il sait profondément au fond de son être qu'il y a énormément de connaissances qui lui seraient utiles, parce qu'il n'a peut-être pas la capacité ou la possibilité aujourd'hui d'être entouré d'entrepreneurs qui réussissent pour pouvoir leur parler, échanger, discuter, etc. Et il sait que dans les livres, il y a cette connaissance dont il a tant besoin.
Alors, moi, je ferai la méthode des petits pas. Ça veut dire que on a assimilé la lecture à l'école. C'est-à-dire qu'on a commencé à lire nos premiers livres à l'école et on a assimilé le fait qu'il fallait lire un livre, obligatoirement le terminer, parce qu'on allait être évalué. Et que si on finissait pas le livre, on n'allait pas avoir une bonne note. Parce que lecture voulait dire contrôle, voulait dire note. Alors que c'est complètement faux. Tu peux déjà commencer un livre et ne jamais le finir et passer à un autre livre. Et moi, j'ai utilisé la méthode des petits pas, qu'on apprend beaucoup dans l'entrepreneuriat aussi, c'est tous les jours en faire un tout petit peu, ne serait-ce que 10 minutes. Et ne faire que 10 minutes de lecture et rentrer ça dans ta routine. C'est-à-dire un peu comme dans ta routine matinale, les gens vont faire un peu de sport, il y en a qui vont faire écouter des podcasts. Moi, au début, quand j'ai commencé, tous les jours, je lisais un peu. Et plus tu vas commencer à lire, plus tu vas apprécier la lecture. Et tu as une méthode que moi, j'utilise beaucoup quand j'enseigne la lecture rapide, c'est la prélecture. C'est-à-dire qu'avant même de lire le livre, tu vas balayer l'introduction, tu vas balayer la conclusion du livre. C'est un peu comme on dit, l'appétit vient en mangeant. En lisant le début du livre, la fin du livre, tu vas avoir les éléments clés qui vont t'intriguer et qui vont te donner envie d'aller lire le livre. Ou inversement, tu vas lire que le début et la fin et tu vas te rendre compte que tu as pour toi toutes les clés ou tous les éléments dont tu avais besoin. Donc, pas besoin de lire ce livre. Sachant que en tant qu'entrepreneur, la chose qui est la plus importante pour nous, c'est le temps. Parce que c'est une denrée rare qui se dilapide et qui revient jamais. Donc, si tu utilises ton temps dans des mauvaises choses, c'est perdu. Donc, si tu passes ton temps à lire un livre de 300 pages qui ne te plaît pas et que tu n'apprends rien, tu as perdu. En plus, si tu lis lentement, tu as peut-être perdu 10 heures de ta vie. Donc, vaut mieux faire cette méthode où tu vas lire le début, la fin, qui va te donner envie de lire le livre. Et ensuite, là, quand tu as cette envie, tous les jours, tu lis un peu. Et tu crées cette routine en te disant, voilà, moi, tous les matins, j'ai ma routine de 7h à 7h15, c'est lecture. Quoi qu'il se passe, je mets mon réveil et je fais 15 minutes de lecture. J'invite les personnes à ne pas faire ça le soir, parce que beaucoup vont vouloir lire le soir avant de dormir. Mais c'est le pire moment pour lire. Parce que le soir, tu es fatigué, tu as toutes les émotions de la journée, ton corps a engrangé énormément de choses par rapport à ce que tu as vécu pendant la journée. Donc le soir, déjà, ton cerveau est ailleurs et la lecture du soir est assimilée au sommeil. Donc tu vas avoir envie de dormir. Et donc tu vas commencer à lire 5 pages, te dire oh, « En plus, je comprends rien, je me rappelle de rien, j'ai envie de dormir, je ferme le livre. » Et après, le lendemain, tu procrastines et tu restes dans cette routine. Alors que si tu le fais, que c'est une des premières choses que tu fais au réveil, et ben là, tu vas vraiment apprécier le livre. Et quand on lit en tant qu'entrepreneur, on doit lire avec des objectifs. Parce que quand tu lis en sachant pourquoi tu lis, qu'est-ce que tu recherches, et ben ton cerveau va être beaucoup plus concentré et ça va te donner envie de recommencer.
Et justement, tu fais beaucoup référence à l'entrepreneuriat depuis le début de cet échange. Aujourd'hui, du coup, Mohamed Boclet, ce n'est pas uniquement un formateur, ce n'est pas uniquement le vice-champion du monde de lecture rapide, le triple champion de France de mind mapping. J'aime bien répéter ces titres parce qu'ils sont quand même... inspirant et important, surtout quand on sait que ça ne fait que quelques années aujourd'hui que tu t'intéresses à la discipline et 2 ans maintenant, sauf erreur, que tu as lancé ton activité, ou 1 an et demi, c'est ça ?
Exactement, ma société a ouvert le 1er janvier 2021, donc là ça fait 1 an et demi qu'on existe réellement.
Magnifique, superbe. Et justement, toi qui étais ingénieur EDF, qui a une vie de famille, qui est quelqu'un de posé, de réfléchi. Quel a été le déclic qui t'a permis d'oser te lancer dans l'entrepreneuriat ? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat et avec cette volonté justement de transmettre, de partager et d'aider les gens à mieux apprendre et à avoir accès à toute cette connaissance qui nous entoure, qui gravite autour de nous pour améliorer leur quotidien ?
Ouais, ça c'est. Alors moi j'ai beaucoup fonctionné par étapes, c'est-à-dire que effectivement j'ai créé ma société le 1er janvier 2021, mais pendant quasiment 8 mois avant de créer ma société, j'étais en associatif et je partageais ça gratuitement autour de moi. Et ce qui s'est passé, c'est que d'abord j'ai appris les techniques pour moi. Un peu, j'étais comme tout le monde. C'était d'abord, avant même de me dire que j'allais enseigner, que j'allais partager, je pensais même pas être capable de le faire. Déjà, moi, je voulais juste apprendre pour moi et résoudre ce problème avec lequel je vivais depuis 29 ans. Ce problème qui était, Mohamed, t'es bête, t'es pas intelligent, tu vas pas y arriver. Et que j'avais tous les jours, c'est un peu le syndrome de, on appelle ça l'impuissance apprise. C'est voilà, c'est ce qu'on nous met dans notre tête quand on est jeune, ou une croyance limitante et avec laquelle on vit, avec le temps, on y croit. Même si c'est faux, on grandit en croyant fortement à ça, alors que c'est complètement faux. Donc moi, je vivais avec ça. J'ai découvert ces techniques, j'ai commencé à les utiliser pour moi. Et ensuite, j'ai ressenti le besoin de me dire, mais maintenant que tu découvres ça et que toi, ça te change ta vie, il va falloir que tu le partages. Tu peux pas garder ça. Tu as énormément de gens autour de toi qui galèrent comme toi tous les jours. Partage-leur. Donc j'ai commencé à le partager gratuitement, j'ai créé une association, je faisais un événement, j'en ai fait un deuxième, un troisième, où je faisais venir des personnes à la journée, toute une journée avec le repas, ils payaient même pas 30 ou 40 euros la journée, c'était juste pour payer les charges de la journée, mon objectif c'était juste de partager. Et après à un moment, je me suis rendu compte que mon impact était limité, parce que plus tu partages, à un moment, tu dois avoir un équilibre entre ma vie de salarié, ma vie de papa, je venais d'avoir mon premier garçon, ma vie de père et de conjoint, et cette activité qui me prenait mes soirs et mes week-ends. Je me suis dit, maintenant, il va falloir que tu arrêtes quelque chose. Et donc, j'aimais tellement ce que je faisais le week-end et le soir, et je voyais que j'avais tellement d'impact, et je voyais les sourires des élèves, les gens qui me disent, bah, c'est incroyable, je viens de finir mon premier livre, j'adore ce que je suis en train de faire maintenant, j'apprends plus, que je me suis dit, allez Mohamed, arrête EDF et lance-toi. Et j'avais une phrase dans ma tête qui me disait tout le temps, quelle est la pire des choses qui peut t'arriver ? Parce que souvent quand tu es entrepreneur, quand tu te lances, moi j'ai toujours été salarié, j'ai commencé même en apprentissage, j'ai commencé chez EDF, j'avais 19 ans, j'étais apprenti chez EDF, donc j'ai fait presque 10 ans, toute ma vie j'ai connu que ça. C'est un grand groupe, quand tu rentres dans ces groupes-là, tu penses rester toute ta vie, c'est un peu la sécurité de l'emploi. Et je me disais, Mohamed, quelle est la pire des choses qui peut t'arriver si tu te lances dans l'entrepreneuriat ? Et je faisais le calcul et je me disais, mais en vrai, pas grand-chose. La pire des choses, c'est que ça se passe mal et que je reprenne ma vie de salarié, que je recommence à retrouver un emploi. Et quelle est la meilleure des choses qui peut t'arriver si tu passes du côté de l'entrepreneuriat? Et là, je listais aider les gens, faire en sorte que les gens apprennent mieux, être libre de faire les projets que j'aime et que j'ai envie, aider et impacter la vie de milliers de personnes. Et donc, c'est ça qui m'a poussé à me dire, allez, vas-y, Mohamed, lance-toi. Et effectivement, il y a un élément aussi, c'est que comme je lisais énormément et que je passais tout mon temps libre, soit à lire, soit à me former, eh ben, tu changes complètement de mindset. Parce que les livres, tu as la chance dans un livre de réunir 10, 15, 20, 30 ans d'expérience dans un seul livre. Parce qu'un auteur, quand il écrit son livre, c'est un peu des fois, c'est l'ouvrage de sa vie. Tu as des livres où la personne, c'est toute sa vie, toutes ses expériences, tous les problèmes qu'il a vus et ressentis, qu'il te met dans un livre. Et quand tu lis, tu vois par où il est passé, et tu dis que lui, il a réussi à faire ça, et tu vois son état d'esprit, tu dis, mais pourquoi moi, je pourrais pas? Et en lisant tous ces livres sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel, et en lisant aussi les vies impactantes de personnes comme Steve Jobs, que tu vois, on voit Apple aujourd'hui, maintenant il est décédé, mais tu vois Apple aujourd'hui, mais par où il est passé? Il s'est fait virer de sa propre boîte et tout ça. Tu dis, mais moi, pourquoi je me lance pas? Et c'est ça qui a fait que je me suis lancé. Et aujourd'hui, j'en suis très heureux parce que j'ai quasiment 14, une dizaine de personnes qui travaillent avec moi aujourd'hui. On a formé plus de 6000 personnes et c'est incroyable.
C'est incroyable. Et ce qui est le plus incroyable, c'est que ce n'est que le début. Connaissant ton tempérament, connaissant les personnes avec qui tu travailles, voyant ce que tu es en train de mettre en place, les médias s'intéressent de plus en plus aussi à toi. Donc c'est vraiment magnifique et bravo pour ça, sincèrement. Outre l'aspect financier, parce qu'effectivement ça transforme la vie d'un individu et c'est une entreprise aujourd'hui. Une entreprise du coup doit être rentable et générer de l'argent pour pouvoir rémunérer 10-15 personnes au quotidien et faire avancer les choses. Mais au-delà de ça, c'est comme tu dis 6 000 personnes auxquelles tu as amélioré leur quotidien et leur capacité à apprendre. Et moi je le vois, aujourd'hui le succès que j'ai pu avoir dans l'entrepreneuriat est... Toutes les personnes autour de moi, le dénominateur commun qu'ils ont, qui leur permet d'avoir ce succès, réside en deux mots. Premier mot, le réseau. Et deuxième mot, les compétences, les connaissances. Et finalement, je pourrais même dire les compétences, les connaissances avant le réseau, car c'est grâce aux compétences et connaissances que l'on va réussir à acquérir, entretenir et exploiter intelligemment et avec respect son réseau. Donc c'est la base, c'est la clé de voûte de tout, c'est la clé de voûte même d'une identité d'un individu et c'est vraiment assez important pour moi pour justement le souligner. Je voulais revenir sur un sujet également de par le fait que je te connais depuis tes débuts. La première fois qu'on a échangé ensemble et que du coup j'ai été amené à te connaître, c'était dans le cadre du Mastermind que du coup j'avais cofondé avec trois autres associés. Mastermind qui a pu accueillir plusieurs dizaines d'entrepreneurs à succès. Ils généraient tous plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois, voire certains 6 chiffres par mois, sauf toi. Toi, tu démarrais et du coup, c'était vraiment le tout début de ton activité. Alors, premier point, du coup, ce qui est intéressant à notifier, c'est que la fameuse phrase, si tu vas dans une pièce et que tu es le plus intelligent ou le plus avancé de la pièce, bah, tu es vraiment dans la mauvaise pièce. Tu dois justement essayer d'être toujours le plus petit de la pièce pour pouvoir te faire tirer vers le haut par les personnes qui la constituent. Donc, tu l'as parfaitement appliqué là dans ce cas de figure. Sans être péjoratif, bien sûr, mais vraiment, c'était vraiment courageux.
Parce que je revis ce moment-là où je crée ma société. Je viens de la créer un premier jour. Il y a rien sur mon compte, hein. Il y a rien du tout. Et je vois le mastermind, l'ouverture des inscriptions au mastermind, et je suivais plusieurs entrepreneurs, et j'avais vu qu'ils étaient tous passés par des masterminds. Et je me suis dit, attends Mohamed, ils sont tous passés par là et regarde où ils en sont. Donc s'ils sont tous passés par là, toi, faut que tu passes par là. Et j'avais la réflexion de me dire, est-ce que je fais ma vie seule pendant 1-2 ans et après j'essaye de rentrer dans ce type de réseau, ou est-ce que dès maintenant j'y vais et entre guillemets je prends un raccourci. Et c'est aussi les lectures et tout ça que je faisais à ce moment-là. Et je me suis dit, non mais Mohamed, si t'as l'opportunité de rentrer, vas-y. Et donc j'avais pris un appel de closing, mais un appel de l'appel pour pouvoir intégrer le mastermind, c'était avec un de tes associés, avec Robin. Et je lui dis la situation, et je lui dis, voilà, moi je me lance, je crois que j'ai 5 000 euros de trésorerie. Donc 5 000 euros par rapport au montant du mastermind, on était très 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 loin, mais on
On peut
proposait le
citer,
paiement
hein,
en
on
plus.
peut citer.
Comment?
Qui était un montant de 20 000 euros. Donc, tu as
Ouais, c'est
5 000 euros
ça,
de
c'était 20 000
trésorerie,
euros.
tu n'as
C'était même
jamais
25.
généré
Je crois que c'était
beaucoup de
25,
chiffre
c'était
d'affaires.
25.
Ouais, 25 000 euros,
25.
exact.
Donc, j'avais 5 000 euros sur mon compte, c'était 25, et il proposait 20 000 euros en paiement une fois ou 25 000 en paiement en plusieurs mensualités, et on me demandait de payer donc 2 500 euros par mois. Et je me rappelle que pendant 2 jours, j'ai pas dormi, j'ai très mal dormi. Je sais pas, j'ai pas dormi pendant 2 jours, j'ai très mal dormi parce que j'ai dit oui. Je me suis dit, mais je suis fou, je vais payer 2 500 euros par mois. Là, ça veut dire qu'il va me rester plus que 2 500 euros, j'ai même pas le chiffre d'affaires et je me lance dans un truc comme ça. Et je me dis, mais Mohamed, au pire, à la fin de l'année, t'es sûr quand même de générer 25 000 euros. Donc, au pire, t'auras remboursé le mastermind, t'auras passé un an incroyable avec des entrepreneurs pour apprendre des choses incroyables. C'est sûr que ça va t'aider. Et vas-y, et tout ce que tu auras appris, ce sera un investissement pour toi. Et donc, en faisant ça aussi, ça m'a poussé, ça m'a boosté à me dire, et quand j'arrivais dans la salle et que j'étais toujours le plus petit, et des fois on parlait chinois, franchement, j'ai eu les premiers cerveaux collectifs qu'on faisait. Pour moi, c'était du chinois, je comprenais rien, on parlait des tunnels de vente, il fallait faire ci, il fallait. Moi, j'étais dans un autre monde, mais je me disais, c'est parfait, je fais que apprendre. Et donc, moi, j'ai fait que apprendre, et quand tu es dans cette situation, tu appliques. Et une de mes forces, et ça c'est vrai, c'est que moi je suis dans l'application. C'est-à-dire que quand j'apprends, j'applique, j'apprends, j'applique. Et plein de stratégies qui nous ont été apprises, ben je les ai directement mises en application. J'ai pas attendu 6 mois, 1 an. Non, j'ai appris, j'ai appliqué. Et ça a payé. C'est quand tu apprends que tu es sérieux, que tu appliques et que tu es rigoureux, tu es sûr de recevoir, de récolter les fruits après.
Exactement, et finalement, on va pas forcément rentrer dans les chiffres, mais 12 mois plus tard, je pense qu'on peut tous les deux dire que, vu les résultats, les connaissant, c'était plutôt un bon investissement.
C'est un de mes meilleurs. Franchement, ça a été le meilleur le meilleur de mes investissements en soi par rapport à tout ce que j'ai appris, mais surtout par rapport au réseau que je me suis créé. Aujourd'hui,
Ouais.
parmi les personnes, il y a des personnes qui sont des associés. Aujourd'hui, voilà, je fais le podcast avec toi, des personnes avec qui je collabore, il y en a qui sont devenus mes amis. Et tu es avec des personnes qui ont le même état d'esprit que toi, et franchement, c'est incroyable. Et si demain je devais le refaire, je le referais les yeux fermés, oui, bien sûr.
C'est intéressant parce qu'on va souligner un point, parce que je ne suis pas là pour mettre en avant un produit ou quelconque chose. On pourrait dire que c'est grâce au mastermind, mais finalement non, c'est indirectement grâce au mastermind, mais c'est directement grâce, par exemple, aux connaissances acquises dans ce cadre-là, mais surtout les rencontres. Notamment, tu as fait une rencontre dans le cadre du mastermind avec qui tu as travaillé et tu travailles encore sur la partie marketing closing, si tu veux le citer, libre à toi. Et aujourd'hui, justement, c'est issu de cette rencontre que vous avez pu mettre en place énormément de choses et que les chiffres sont ceux qui sont aujourd'hui parce que ça a pu te permettre, et je pense que c'est très important dans la vie d'un entrepreneur, de te concentrer justement uniquement sur tes forces et tout ce qui n'était pas forcément ton domaine d'expertise, d'excellence, par exemple le marketing ou la vente, a été géré par une tierce personne et des équipes, te permettant du coup de tirer le plein potentiel de ton business et impacter le maximum de gens, tout en restant concentré sur ce qui te plaît et ce qui t'anime au quotidien et ce en quoi tu es excellent.
Exactement, c'est exactement ça. Moi, une chose aussi que j'avais compris, c'est ne va pas passer des heures à te former sur un truc que t'aimes pas. Concentre-toi sur ta zone de génie. Ma zone de génie, c'est apprendre et partager. Ça, c'est ma zone de génie. Enseigner, donner du contenu, faire aux gens, faire en sorte que les gens apprennent et réussissent et ne se sentent plus jamais nuls. Ça, c'est ma zone de génie. Le reste, faire une page de vente, faire un tunnel, gérer la création d'un webinaire, tout ça, c'est pas du tout fait pour moi. Et donc, ce que j'ai fait, tout ce que je gagnais, je le réinvestissais pour déléguer les choses que je pouvais pas faire seul. Et rapidement, j'ai mis ça en place. Et effectivement, aujourd'hui, je collabore avec Jean depuis quasiment 1 an et demi. On a commencé quasiment quelques mois après mon arrivée au Mastermind. On a commencé ensemble. Et il est avec moi sur une des parties marketing de une de mes activités. Et effectivement, ça m'a énormément déchargé. Parce que lui se concentrait à développer cet aspect-là, développer le marketing et à se former lui sur cette partie qu'il adore. Et faire améliorer la machine, et moi je me concentrais sur mon contenu, apprendre et partager toujours du contenu de qualité à ma communauté.
Tout à fait. Ouais, c'est vraiment important, je pense, pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, de vraiment comprendre ce concept. Et c'est comme ça qu'on se démultiplie finalement. Comprendre ses forces, certes, mais aussi du coup savoir là où on est moins bon, où on n'a pas envie de mettre notre focus. Et du coup, trouver des personnes qui, elles, sont excellentes là-dedans pour combler ce vide et nous permettre d'avancer.
Ouais, moi, une des premières tâches que j'ai mis en place quand je me suis lancé, c'est trouver un bras droit. Je me rappelle encore au début, quand j'ai commencé, 2-3 mois, 1 mois et demi après être rentré dans le mastermind. À la base, c'était pas le sujet du podcast, mais ça rappelle certains souvenirs et certains enseignements. C'est que je me suis lancé, j'étais tout seul, j'étais infopreneur, je commençais, du moins, j'étais entrepreneur, mais solopreneur. Et une de mes premières missions qu'on m'avait donnée en coaching, c'était tu dois trouver un bras droit. Tu dois trouver une personne qui doit te déléguer. Et dans ma tête, je me disais, mais non, pourquoi je vais prendre le temps de trouver un bras droit, de le former, ça va me prendre trop de temps, trop d'énergie, ça sert à rien, moi j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de... Mais non, pour moi c'était une de mes meilleures décisions. Pourquoi? Parce que effectivement au début, ben tu te lances. Donc en termes de charge de travail et tout, t'en as moins qu'après. Donc c'est le meilleur moment d'intégrer une personne dans ton équipe qui va se lancer en même temps que toi. Et ensuite lui déléguer tout ce que tu peux lui déléguer. Et donc, j'ai passé plusieurs semaines à chercher un bras droit, à le trouver, à le former, à ce qui m'accompagne. Et ça m'a énormément déchargé. Et donc, j'ai pu rapidement me concentrer sur mon expertise et lui déléguer. Et après, j'ai commencé à prendre des prestataires externes pour déléguer d'autres parties. Et ça, franchement, au début, c'est même si on n'a pas beaucoup de chiffre d'affaires, avoir une personne qui peut nous aider, à qui on peut déléguer toute la partie administrative, la gestion des boîtes mail, la gestion des réseaux, tout ce que... Voilà, toutes ces petites tâches, ben, faut le faire très rapidement parce que ça vous permet de décharger du temps. Et il y a un truc à avoir en tête, c'est au début, c'est soit t'as l'argent, soit t'as le temps. Soit t'as du temps pour faire les choses tout seul, mais ça te prendra beaucoup de temps, soit t'as l'argent pour déléguer. Donc moi, tout l'argent que je gagnais, je réinvestissais pour déléguer. Et à la fin, ça m'a permis de dégager beaucoup plus de temps et donc forcément de dégager aussi plus de chiffre d'affaires et pouvoir impacter plus d'élèves.
Tout à fait. Et par curiosité, ce bras droit que tu as recruté au balbutiement de ton activité, est-ce que tu travailles encore aujourd'hui avec lui?
Oui, ouais. Il est encore avec moi. Il est responsable de certaines de mes entités où je lui ai délégué carrément tous des projets. Là, aujourd'hui, au début, on avançait ensemble. Maintenant, il y a des projets. Je lui donne la totalité du projet. Et il fait chef de projet. Je lui donne le projet. Il gère tout de A à Z.
D'accord. Donc, intéressant.
Ça a été une de mes premières. C'était ma première recrue et aujourd'hui on est encore ensemble et je suis super content d'être avec lui.
Ok. Pendant un certain temps, c'était très drôle parce que il y avait parfois, donc dans le cadre des masterminds où on échangeait, on parle de différents sujets, des problématiques liées à son business, où on est là pour décortiquer ces problématiques et trouver des solutions, mais on parle aussi beaucoup de perso. C'est le but d'un mastermind, c'est le but d'un groupe communautaire. Et souvent dans le cadre perso, malgré le fait que tu avais déjà un chiffre d'affaires sans rentrer dans les détails, un chiffre d'affaires à 6 chiffres, donc qui permet quand même d'avoir une certaine visibilité, une amplitude sur ce qui va se passer demain, etc. Tu avais, en tout cas, tu exprimais toujours cette petite crainte de « et si ça s'arrêtait demain et que je devais retourner à mon ancien job, à ma vie d'avant, chez EDF ou quelque chose d'autre, etc. » Qu'est-ce qui fait selon toi, voyant ces chiffres, voyant cette croissance, voyant ce potentiel, voyant la satisfaction de tes clients, voyant le fait que tu t'es entouré d'entrepreneurs et d'individus qui cartonnaient tout comme toi, que tu avais toujours cette petite épée Damoclès au-dessus de la tête? Et donc j'ai déjà cette première question, puis ensuite on verra comment elle a disparu finalement.
Alors comment elle a disparu? Alors je sais pas si elle a disparu. Elle s'est énormément atténuée. Elle s'est énormément atténuée au sens où c'est mon histoire aussi. Là, c'est plus perso. C'est vraiment mon histoire de... Bah, moi, j'ai grandi avec cette croyance de CP, j'ai redoublé. CE1, je devais redoubler. CE2, on voulait me mettre en SECPA. On m'a souvent rabâché que j'étais pas bon. Je me rappelle encore de ces images où j'avais des copains de classe qui se moquaient de moi quand je devais lire en classe. Donc, c'est... Tu vois, tu grandis avec des choses quand t'es enfant qui te marquent toute ta vie, mais qui rentrent dans ton inconscient. Et effectivement... Quand tu avances, aujourd'hui, je sais que si je devais tout perdre, je pourrais tout recommencer. Quand je dis tout recommencer, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou autre, parce que ce que j'ai appris à apprendre. Et que je sais que demain, si je devais tout perdre, je pourrais aller à la bibliothèque. Il y a des livres gratuits. La bibliothèque, c'est gratuit. Tu payes 5 € l'année. Et quand tu es demandeur d'emploi, c'est l'accès à la... Je veux dire, le fait louer des livres, c'est gratuit. Tu as des livres sur Internet, tu as des trucs sur YouTube. Tu te poses 2 jours, 3 jours, 4 jours. Tu lis plein de choses sur une thématique. Tu mets en application, tu fais ça gratuitement au début. Après, tu commences à monétiser. Et donc, je sais que demain, je pourrais me lancer dans n'importe quelle thématique. Et si je devais tout perdre, je pourrais tout recommencer. Si je voulais repartir dans l'entrepreneuriat ou je pourrais reprendre, je le sais. Mais donc maintenant, ça a énormément atténué. Donc, j'ai beaucoup moins ce problème-là et je dors beaucoup mieux. Je dors beaucoup mieux. Mais effectivement, quand ça va très vite, tu as un peu ce syndrome de l'imposteur. Te dire, est-ce que je suis au bon endroit? Quand tu vois les chiffres, que tu vois que tu impactes 10, 20, 100, 1000, 2000. À la fin de la première été, on est à 2000 élèves. Aujourd'hui, en 9 mois, on a 6000 élèves en plus, 4000 élèves en plus. Donc, c'est énormément de personnes qu'on accompagne, des personnes qui sont derrière nous, qui nous regardent un peu comme des mentors, alors que moi, j'estime que je suis pas du tout un mentor, qui nous disent, mais que t'inspires, alors que moi, quand je me regarde, je me dis, non, mais Mohamed, t'es personne, moi, dans ma vie, rien n'a changé, je roule toujours avec ma petite Dacia, j'ai ma vie tranquille, je m'habille, voilà, j'ai pas beaucoup changé de choses autour de moi, et j'essaie de toujours rester les pieds sur terre, parce que je sais d'où je viens. Et, je me suis perdu un peu dans tout ce que je racontais, mais pourquoi je disais tout ça, c'est que effectivement, quand ça va vite, au début, tu peux avoir cette peur de dire j'ai eu tout vite, donc je peux tout perdre rapidement. Mais après, tu te stabilises, tu te rends compte que les semaines se répètent, que quand tu mets en place certaines choses et que les datas ne montent pas, que voilà, t'arrives quand tu fais ça, t'arrives à avoir tant de personnes impactées, que tu peux avoir tant de résultats, et donc après tu commences à avoir confiance en chiffres, et après tu commences aussi à avoir plus confiance en toi, et là tu te dis en vrai non mais de toute manière, si je perds tout, j'ai déjà fait quelque chose d'incroyable et je sais que je pourrais revenir et refaire quelque chose d'incroyable encore.
Ouais, c'est super intéressant. Finalement, je suis de même avis. Demain, je viendrai à tout perdre. C'est grâce aux compétences et aux connaissances que j'ai su accumuler et la confiance, la conviction que j'ai en moi de réussir à faire des choses extraordinaires que tu pourras les réitérer, ou en tout cas le réitérer plus facilement. Un autre point du coup... c'est que ça change beaucoup de choses dans un quotidien d'un individu, d'avoir un business qui fonctionne aussi bien que le tien et tout ce qui gravite autour. Si tu devais définir ou exprimer comment ta vie a changé ou elle a pu changer pour ta famille, comment est-ce que tu l'exprimerais ?
J'ai beaucoup plus de temps pour moi. C'est-à-dire que comme très rapidement j'ai appris à déléguer, eh bien, je me concentre plus sur les trucs que je kiffe. Donc aujourd'hui, je fais plus de choses que j'adore, que j'aime vraiment, et je me concentre sur ça. Faire des podcasts, faire des conférences, voyager. Même si moi, je ne vis pas la vie de l'infopreneur ou qu'on voit sur Insta toujours en vacances, ce n'est pas le cas. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, voilà, je peux me permettre d'aller en vacances, de passer du temps avec mes enfants de qualité, passer du temps avec mes proches de qualité. Et c'est ça qui a changé. Et aujourd'hui... aussi, quand je me réveille, je fais que les choses qui m'apprécient. Et j'ai la chance de pouvoir dire non à certains projets. Qu'au début, tu ne pouvais pas. Maintenant, je sais que je peux dire non parce que je vais me consacrer uniquement sur les choses que j'apprécie.
C'est intéressant, effectivement. Une autre question pour toi. Est-ce que tu te qualifierais de quelqu'un qui est discipliné?
Quand même, ouais. J'essaye d'avoir une discipline. Quand j'ai un projet et que je kiffe ce projet... Je vais être discipliné. Ben, exemple, j'ai un système de conférences et ça fait quasiment un an et demi que... presque 14 mois que tous les dimanches, je fais ma conférence. Je fais une conférence gratuite et que ça fait 14 mois que tous les dimanches, je fais une conférence gratuite. Tous les dimanches.
Effectivement.
Qu'il y ait de la pluie, qu'il neige. Je suis parti en Italie. J'étais en vacances en Italie. Ben, j'organise toute ma semaine. Je fais toute ma vie. Mais je sais que le dimanche soir, il faut que je sois là. Je me rappelle encore, voilà... pas de problème de connexion, je suis parti voir le propriétaire, j'ai dû finir dans le bureau de ses parents, dans une maison lointaine dans la campagne, parce que c'était le seul endroit où je pouvais avoir du réseau. Et aujourd'hui, il y a plein d'événements qui se font. Exemple, des fois, il y avait le mastermind ou des rencontres d'entrepreneurs où à 15h le dimanche, je dois partir parce que je sais que j'ai ma conférence, alors que tout le monde est encore là, qui vont se faire une super journée dans un yacht ou super journée à faire telle ou telle chose. Et moi, je dis non, j'irai pas parce que j'ai ma conférence et il faut que je sois derrière mon écran pour ma conférence. Alors que je sais que beaucoup de personnes ont dit bah, tranquille, tu la fais pas, c'est qu'un dimanche. Alors que non, si tu veux vraiment aider un maximum de personnes, bah, faut être là. Il faut être là toutes les semaines et être rigoureux, continuer et persévérer.
Ouais, c'est clair. Alors, je sais pas si tu es discipliné, mais je pense que tu l'es. Mais je sais en tout cas assurément avec ta réponse que tu es quelqu'un de très humble. Parce que, effectivement, tu vois, tu as fait référence à la discipline avant quand on parlait de lecture. Et je peux assurément dire, connaissant beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'infopreneurs également, que tu as une discipline énorme à l'égard de ces conférences. Je t'ai vu aussi nous quitter parfois à 14, 15 heures, 16 heures pour tes conférences le dimanche lorsque l'on faisait ces événements ou ces rencontres d'entrepreneurs, tout à fait. Et beaucoup d'entrepreneurs auraient très rapidement cherché à automatiser ou à trouver des parades ou à faire différemment les choses. Mais non, toi, tu es là, tu es présent et tu fais tes conférences parce que tu sais pourquoi tu les fais et c'est aligné avec ta mission qui est finalement aujourd'hui ta mission de vie. Donc, c'est super intéressant à souligner. Et je pense que la discipline, quel que soit justement le domaine d'activité ou le domaine dans lequel on veut exceller, est capital. Plus encore que le fait de travailler dur, mais le fait de travailler justement intelligemment et durablement permettra, qu'importe l'individu selon moi, à atteindre les résultats qu'il désire.
Je partage, je suis entièrement
d'accord. Top. Un autre point, c'est que bon, quand on est, encore une fois, vice-champion de France de lecture rapide, vice-champion du monde, pardon, on lit beaucoup de livres. On lit beaucoup de livres, on acquiert beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences. Ces compétences, ces connaissances, connaissant un petit peu comment fonctionne la mémoire, elles ont tendance, du coup, à s'évaporer, à disparaître au fil du temps peut-être, ou en tout cas à s'atténuer. Il y a pas mal d'outils aujourd'hui comme Notion ou comme Obsidian. Je ne sais pas si tu connais ces outils, tu les utilises, ou si tu as des recommandations particulières pour celles et ceux qui veulent améliorer aussi leur capacité non pas à apprendre, mais à retenir les informations qu'ils ont apprises.
Je vais répondre de manière un peu simple. Alors oui, je connais Notion, je l'utilise, hein, c'est un moyen de... Je vais stocker de l'information. Mais pour moi, le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'appliquer. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'apprendre des milliers de choses, mais apprendre peu et appliquer. Alors, je suis fondateur de Connaissances Illimitées et souvent les gens me disent, mais qu'est-ce que Connaissances Illimitées? Donc, je leur dis, ouais, c'est mon organisme. Mais après, quand je leur explique la définition et pourquoi j'ai créé Connaissances Illimitées, pour moi, c'est apprendre, appliquer, partager. Tu apprends un savoir, tu apprends quelque chose, tu dois absolument l'appliquer tout de suite maintenant. Parce que en l'appliquant, tu utilises la mémoire motrice, la mémoire procédurale, la mémoire de l'action. Et donc, ça vient ancrer l'information. Une fois que tu l'as appliquée, tu vas la partager. Tu peux la partager de mille et une manières. Tu peux la partager dans des vidéos, dans des réels, dans des podcasts, dans juste voir ton ami le soir en boire un verre et dire voilà, j'ai lu tel livre et tu sais que dans tel livre où j'ai écouté le podcast d'Alec et de Mohamed, le déclic, il est super intéressant, il a parlé d'application. Voilà. Tu partages. Et quand tu partages, tu viens confronter ton savoir aux gens. Et donc, soit c'est clair et la personne a compris, soit c'est pas clair et la personne va te poser des questions. Soit tu sais répondre, c'est super. Si tu sais pas y répondre, tu vas aller chercher la réponse. Donc, tu vas encore apprendre. Et tout ce qui est matériel, quand tu le partages, il se divise. Sauf le savoir. Le savoir qui est pas matériel, quand tu le partages, eh ben, il se multiplie. Si moi, j'apprends quelque chose et que je te le partage, et que toi, t'es en train de le partager à quelqu'un d'autre, ben, ça se multiplie. Moi, tout ce que je viens d'enseigner, toutes les milliers de personnes qui vont écouter le podcast, ils vont apprendre des choses. Et donc, le savoir se multiplie. Et donc, avant même de chercher des outils, pour moi, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat ou dans n'importe quelle thématique, t'apprends quelque chose, applique-le tout de suite. Et applique-le jusqu'à que ce soit ancré. Et après, apprends une deuxième chose et applique-la. Une troisième chose et applique-la. Et dès que t'as l'occasion, partage. Et plus tu vas partager, plus t'as de chances de retenir. Tout simplement.
C'est une philosophie très intéressante de cette vision-là, tu vois. Alors que beaucoup voient ça et sont drivés par la philosophie du stockage. Toi, t'es drivé par la philosophie du partage.
Et de l'application.
Ouais. Justement, et de l'application, ouais.
Parce qu'il y a
c'est super intéressant.
Il y a une phrase de Warren Buffett qui disait « Tout le monde peut le faire, mais peu le font. » Tout le monde peut le faire et peu le font. Et effectivement, c'est une phrase que... quand je l'ai entendu, elle m'a beaucoup marqué parce que tout le monde, tu sais, on rêve tous, on a des webinaires, des trucs qui disent oui, comment faire 10 000 euros par mois, comment faire 100 000 euros, comment faire 1 million. En vrai, tout le monde peut faire 1 million. Tout le monde peut faire 10 millions. Mais pourquoi peu le font? Parce que entre le tout le monde peut le faire et ceux qui le font, eh ben, il y a ceux qui vont appliquer et persister et persévérer et continuer et mettre en place ces stratégies et avancer. Et c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, tu as des gens qui sont dans la boulimie de l'information. C'est-à-dire qu'ils vont aller faire tous les séminaires. Ça fait 5 ans, ils sont dans des séminaires. Ils font faire le tour de tous les masterminds. Ils vont faire le tour de toutes les conférences. Mais quand tu creuses et que tu dis, mais t'en es où? T'as appliqué quoi? Eh ben, t'as pas, ou t'as lu plein de livres, mais t'as appliqué, j'ai pas appliqué grand chose. Et donc, je préfère faire peu et appliquer que faire beaucoup, apprendre beaucoup et pas appliquer. Donc, je suis plus dans cet état d'esprit-là de apprends peu, mais applique tout de suite. Implémente, vois ce qui fonctionne pas, fais la boucle du feedback, voilà. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Je modifie, je recommence à appliquer. J'apprends une deuxième stratégie, une troisième stratégie, une quatrième. Moi, je me suis lancé dans la stratégie du webinaire. Je suis allé à fond dans cette stratégie. Bon, ça a fonctionné, donc j'ai continué. Ça aurait pu échouer. J'aurais essayé d'améliorer. Et après, je serais peut-être parti dans une deuxième stratégie, une troisième. Mais va jusqu'au bout. Tu as des personnes qui vont tester un truc. Au bout de 2 semaines, ils sont déjà en train de tester une deuxième chose. Après, 2 semaines après, une troisième. Bah, tu n'as pas le temps, en vrai, de voir si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Et donc, je suis plus dans cet état d'esprit-là.
Donc, tu penses que le succès de la sauce Beauclais, si on peut l'appeler comme ça, c'est justement cette capacité à avoir réellement creusé le sujet et cherché à comprendre, craquer le code pour te permettre aujourd'hui d'être, d'une part, durable sur le marché, mais aussi, surtout, d'avoir les résultats que tu as aujourd'hui. Parce que finalement, des gens qui se lancent, il y en a énormément. Des gens qui se lancent dans l'infoprenariat, il y en a énormément également. Des gens qui se sont déjà lancés dans l'infoprenariat et dans ta thématique, il y en a aussi. Et pourtant, tu es arrivé potentiellement après eux, mais tu es de loin le numéro 1 et tu as des résultats aujourd'hui qu'aucun auparavant n'a eu aujourd'hui dans ta niche et tu as impacté des milliers de personnes et tu vas encore impacter des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers de personnes. Donc selon toi, outre les différents conseils et concepts que tu as évoqués à l'instant, est-ce qu'il y a autre chose qui a fait ce succès?
Très bonne question. Alors moi, il y a une chose que j'ai pas changé, c'est que ma vie a pas changé. Quand je dis ça, c'est un peu bizarre. Je sais pas comment l'expliquer. J'ai jamais conscientisé un peu ta question, mais au sens où je suis resté qui j'étais. C'est-à-dire que dans ma vie, rien n'a changé. Je suis toujours focus. Le Mohamed qui fonctionnait il y a un an, c'est toujours le même. Au sens où j'ai mon objectif, je sais pourquoi je fais ça et j'avance. Et je continue à avancer. Et au lieu d'aller dépenser bêtement ou faire autre chose, non, je me dis, Mohamed, t'as un objectif, c'est permettre aux salariés, aux étudiants de se libérer intellectuellement et libérer leur plein potentiel pour devenir ce qu'ils veulent vraiment, tout simplement changer des vies. Voilà, ça, c'est ma mission. Et donc, tous les jours, je me dis, voilà, Mohamed, tu dois changer des vies et continue comme ça. Et c'est plutôt ça que j'ai en tête et qui me drive tous les matins. Et je me réveille le matin en me disant, Mohamed, comment tu vas impacter les gens et changer des vies et continuer et reste qui tu es. Ne change pas. Je sais qu'au début, quand j'ai commencé, c'était pour aider un maximum de gens. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose. C'est permettre à un maximum de gens de se libérer intellectuellement et se dire, je peux le faire et je serai plus jamais nul. Et c'est ça qui me drive et qui fait que je continue aujourd'hui. Et je pense qu'il a fait que ça fonctionne parce que aujourd'hui aussi, je donne beaucoup de choses gratuites. Voilà, il y a plein de contenu pour permettre à tous ceux qui n'ont pas les moyens aussi d'apprendre. Parce qu'il y a plein de gens. Et je sais que les formations que je propose, je pourrais les vendre beaucoup plus cher et peut-être me faire soit plus d'argent ou limiter, faire la même chose mais avec moins de temps parce qu'on est dans la mentalité du high ticket. Et moi, je suis plutôt dans... Non, Mohamed, tu avais un objectif, c'est de démocratiser ce savoir. Et ben, reste comme tu es, même si tu peut-être t'en fais moins, mais tu sais que tu impactes un maximum de gens. Et ça marche parce que je fais pas ça... En vrai, c'est un peu bizarre de dire ça. Mais surtout quand tu es entrepreneur, je fais vraiment pas ça pour l'argent. Et je pense que ça m'aide. Parce que comme j'ai rien changé dans ma vie et que ça change rien en vrai, c'est juste un indicateur. Parce que c'est un indicateur de combien de personnes tu as aidé. Quand tu as un chiffre d'affaires qui est beau, bien, ça veut dire que tu as vendu beaucoup de formations, ça veut dire que tu as aidé beaucoup de personnes. C'est plus cet indicateur-là que ça représente. Et moi, je fais plus sur... le nombre d'élèves que j'ai accompagnés, la qualité de ce que je leur délivre, faire en sorte que mes élèves soient satisfaits et qu'ils avancent bien. J'ai rajouté plein de choses pour que mes élèves soient satisfaits et qu'ils avancent. Et c'est plus ça qui me drive tous les jours.
Ok, si tu devais te projeter, parce qu'on a beaucoup parlé de qui tu es aujourd'hui, qui tu étais avant, des différents déclics et des différentes décisions qui ont fait que tu as les résultats que tu as aujourd'hui. Qui est le Mohamed dans 5 ans? C'est quoi les objectifs? C'est quoi la vision? C'est qui cet individu? Est-ce que c'est exactement le même comme aujourd'hui? Ou justement, est-ce qu'il y a des objectifs que tu désires atteindre? Et où est-ce que tu penses être d'ici là?
Dans 5 ans, alors il y a des choses que j'aurais voulu faire dans 5 ans que je vais faire bientôt. C'est je les ai anticipées. Exemple, j'ai la sortie de mon livre en février. Pour moi, ça c'était un enjeu objectif incroyable. Et je sors mon livre en février dans une très belle maison d'édition française. Et alors, dans 5 ans, où je suis, ben, aujourd'hui, pour moi, dans 5 ans, j'impacte encore plus de monde. Je travaille avec l'État, j'essaie de faire en sorte qu'il y a plus d'étudiants, il y a plus de parents qui découvrent ce savoir, que je sois dans plus de maisons pour que plus de personnes puissent utiliser ça et puissent changer leur vie. Donc voilà, dans 5 ans où je suis, et je fais encore plus des choses que j'aime, ça veut dire que me concentrer sur les conférences, me concentrer sur l'apprentissage aussi, continuer à énormément me former pour partager.
Finalement, le livre, c'est un excellent outil pour mener et aboutir à cette vision, parce que tu dis être dans les maisons. Un livre, c'est un objet physique. Tu es posé sur une table de nuit, tu es posé sur une table de salon, de canapé. Tu es présent dans la bibliothèque des gens, et ce, pendant des dizaines d'années parfois. Tu vas passer de main en main, de génération en génération, et ça permettra d'aboutir à la vision sans même avoir besoin d'avoir un contact direct ou indirect avec toi grâce à ce support. Donc finalement, c'est quelque chose que tu vas pouvoir très rapidement actionner, qui plus est avec la visibilité que tu as, avec l'influence que tu as, les médias autour de toi et une des plus grandes maisons d'édition de France qui te suit pour ce projet. Je pense que c'est quelque chose, en tout cas on te le souhaite tous et je te le souhaite le plus sincèrement possible, d'aboutir à ça. Tu parles du coup du fait d'écrire un livre, donc j'étais pas au courant, donc félicitations, c'est une excellente chose. Moi-même j'ai écrit un livre et là je suis en train d'écrire un second livre. C'est quelque chose dont je parle pas encore, mais c'est en cours. Selon toi, et ça va même pouvoir indirectement m'aider ou en tout cas me mettre la puce à l'oreille sur quelque chose, t'as lu énormément de livres, t'as écrit ton livre, tu l'écris avec une grande maison d'édition, donc j'imagine t'as été très bien conseillé, très bien accompagné toi aussi. Quel est l'élément ou la recette ou le dénominateur commun des livres qui ont eu les plus grands succès, des vrais best-sellers qu'on connaît aujourd'hui?
C'est donner des outils pratiques. Les gens ont besoin d'outils pratiques. Le problème, c'est que les gens n'aiment pas lire. Les gens n'aiment pas lire. On lit de moins en moins. Et ça revient à ce que je disais, on assimile beaucoup la lecture à également l'évaluation. Et donc, les gens ont besoin d'avoir des éléments pratiques, concrets, qu'ils vont pouvoir utiliser, surtout dans nos thématiques. Parce que nous, on n'est pas en train d'écrire un roman. Du moins, dans notre cas de figure, c'est des livres d'apprentissage. Et les personnes doivent être en capacité de lire et de dire, voilà, qu'est-ce que je ressors et qu'est-ce que je mets en application en lisant tel chapitre. Et donc, c'est les livres qui m'ont le plus impacté, c'est ceux qui ont été écrits de cette manière, où l'auteur a donné énormément de contenu. Moi, dans mon livre, je mets énormément de valeur, parce que je fais aucune rétention d'informations. Parce que plus tu vas donner de la valeur, plus les gens vont être reconnaissants. Du moins, ça, c'est mon état d'esprit. Donc, j'ai mis énormément de valeur et j'ai tout fait pour que ce soit concret, pour que les gens puissent directement, quand ils ferment un chapitre, se dire, voilà, je vais appliquer telle ou telle chose. Un peu presque leur donner des plans d'action, leur dire, voilà, tu vas mettre ça en place. Et c'est comme ça que j'ai créé mon livre. Et je vois les livres qui m'ont le plus impacté et c'est souvent des livres qui sont des best-sellers, c'est des livres qui sont écrits de cette manière.
Ok, c'est super intéressant et je te rejoins. Je rajouterai un élément, à voir si tu le partages. Souvent, c'est des livres qui sont basés sur des concepts, sur des choses qui sont intemporelles, sur des principes clés. Pas uniquement des méthodologies ou des techniques ou des stratégies à la mode, mais vraiment les concepts qui sont basés même à la psychologie humaine et qui font que ça va être intemporel. Et qui font qu'aujourd'hui, des livres écrits en 96, 2005, 2007, je pense notamment à certains ouvrages en particulier, sont encore aujourd'hui dans le top et le seront encore, je pense, demain, dans 5 ans ou dans 10 ans.
Je suis d'accord, je partage. Je suis entièrement d'accord avec toi.
Un dernier sujet, merci pour tout ce que tu as partagé, vraiment c'est phénoménal la valeur qui est partagée dans ce podcast, dans cet épisode. Je vais te donner la main, c'est-à-dire que c'est ton podcast. Si tu avais un élément, un conseil que tu voulais absolument partager aux personnes qui nous écoutent ou au Mohamed de l'époque, d'avant, qui n'a pas encore été partagé dans ce podcast, qu'il soit pro ou perso, lequel ce serait? Tu as carte blanche.
Je vais en partager un. Je me rappelle qu'un soir, on était ensemble avec plusieurs personnes et j'avais sorti cette phrase. Tu m'as dit, c'est exactement celle qui te caractérise. Et si je devais parler à Mohamed il y a 5 ans, à moi-même qui le lance, ou Mohamed enfant, ou à quelqu'un d'autre, c'est cette phrase qui me caractérise et que je mets en application tous les jours. C'est que la peur a tué plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait. La peur a tué plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait. Et énormément de personnes, par peur, ne vont jamais se lancer. Énormément de personnes, par peur, ne vont même pas commencer. Par peur, ils vont jamais acheter une formation. Par peur, ils vont jamais lire un livre. Par peur, ils vont jamais aller parler à cette fille qui regarde tous les jours à l'école parce que et peut-être qu'il y a, ou aller parler à ce garçon, peut-être aller faire cet entretien. Il y a des étudiants qui vont même pas au bac. Ou la dernière fois, je parlais avec mon neveu qui est devenu enseignant et il m'a dit il y a des personnes dans ma promo qui sont pas allées à la soutenance. Ils sont en bac plus 5, hein. Il y a une soutenance pour devenir prof. Ils y sont pas allés par peur. C'est-à-dire qu'il aurait pu devenir prof. Mais comme il a eu peur, il s'est dit j'ai raté, il a perdu avant même d'avoir commencé. Et donc la peur a tué plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait. Et c'est un mantra que je me répète souvent. Et pour avoir ce que t'as jamais eu, faut faire ce que t'as jamais fait. Donc c'est la variante d'Albert Einstein qui disait la folie est de faire tous les jours la même chose et d'expérimenter un résultat différent. C'est pour avoir ce que t'as jamais eu, faut faire ce que t'as jamais fait. Donc si tu veux des résultats, ben fais des choses que t'as jamais fait. Si tu fais tous les jours la même chose, bah, tu auras le même résultat. Et prends ta peur comme un objectif. Exemple, la semaine prochaine, bon, quand le podcast va sortir, ça aura déjà été fait, mais semaine prochaine, je fais l'ascension du Mont-Blanc. Je pars une semaine et je fais l'ascension du Mont-Blanc. Et pour moi, c'est une peur. J'ai vraiment peur de faire l'ascension du Mont-Blanc. Je me dis, c'est ouf, je voyage jamais seul, là, je vais aller tout seul avec un groupe de personnes que je connais pas et je vais faire l'ascension du Mont-Blanc. Mais comme c'est une peur, c'est aussi un objectif. Et j'ai une fierté interne de me dire, je vais aller faire ça. Je vais faire un truc pour lequel j'ai peur et je vais me dépasser. Et donc, si j'avais un point à partager à tout le monde et que les gens appliquent à la fin de ce podcast, voilà, ils arrêtent le podcast, ils vont faire leur vie, eh ben, ils font quoi? Ils regardent un objectif, un truc qui leur fait peur, et ils se disent, bah, maintenant, c'est mon objectif. Et pour l'avoir, il faut que je fasse un truc que j'ai jamais fait. Donc, commencer à se former, commencer à apprendre, commencer à lire, faire un truc que t'as, pour avoir ce que tu n'as jamais eu, fais ce que tu n'as jamais fait. Et arrête d'avoir peur parce que énormément de personnes ont échoué avant même d'avoir commencé. Donc vas-y et tu verras si t'échoues ou pas. Soit t'échoues, soit t'apprends.
Voilà. C'est clair. Je peux que partager ce concept et pour renforcer ton propos, je regarde un petit peu ce que tu fais. J'ai vu dans une de tes stories que tu t'étais donné ce challenge du Mont Blanc et un jour ou deux plus tard, directement passage à l'action, malgré le fait que tu as un emploi du temps très chargé, beaucoup de choses à gérer, je te voyais quelque chose comme 5h30 ou 6h du matin faire un entraînement physique avec un coach à l'extérieur en train de faire des exercices, etc. pour te préparer psychologiquement et physiquement à ce challenge. Donc, tu aurais pu te trouver des excuses et te dire « Non, j'ai pas le temps, j'ai ci à faire, j'ai ça à faire. » Non, je me réveille plus tôt, je me trouve un coach, j'y vais, je me force et j'avance en direction de ces objectifs. Donc, excellent. Merci Mohamed. Merci pour tous ces conseils. Merci pour ce podcast, cet échange super intéressant. Pour celles et ceux qui, bien sûr, veulent plus de contenu lié à ce que tu fais et en savoir plus sur toi, il y aura les liens directement en description du podcast. Il y a aussi ton prénom et ton nom qu'on peut simplement taper sur Google et trouver énormément de ressources. Tu as aussi une chaîne YouTube, tu as des réseaux sociaux. Donc, je vous invite vraiment à le faire si vous désirez en savoir plus à l'égard de Mohamed. Et encore une fois, merci pour tout ça. Je te le souhaite tout le succès du monde et de continuer dans cette direction, mais je ne me fais pas trop de soucis pour toi. Et je te dis à très bientôt.
Merci à toi et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés et à très vite. Merci.
Merci.